14h10, l'heure de retrouver le rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Bonsoir, bonjour à tous. Deuxième journée de manifestation contre Donald Trump. Mobilisation qui faiblit cependant alors que le milliardaire a fait ses premiers pas à la Maison Blanche hier. Résumé de cette rencontre avec Barack Obama dans cette édition, nous vous donnerons aussi des nouvelles fraîches d'Hillary Clinton. Autre titre de l'actualité du continent, aujourd'hui cette deuxième rencontre entre le gouvernement vénézuélien et l'opposition. L'opposition qui menace de redescendre dans la rue s'il n'y a pas d'avancée lors de ces discussions. Nous irons en Haïti. Amélie Baron a rencontré un responsable de l'ONU chargé de la coordination de l'aide humanitaire. Et puis le Canada pleure le musicien Leonard Cohen qui s'est éteint à l'âge de 82 ans. Une image difficile à imaginer il y a encore quelques jours. Donald Trump et Barack Obama côte à côte à la Maison Blanche. Le 44e président des États-Unis recevait son successeur hier et à l'issue d'un entretien de 90 minutes, les deux hommes se sont brièvement adressés à la presse. La correspondance à Washington d'Anne-Marie Capomaccio.
Je viens d'avoir un excellent entretien avec le président Trump. Ma priorité pour les deux mois à venir est de faciliter la transition afin d'assurer la réussite du président élu.
Barack Obama dans le bureau ovale, en homme d'État, le président souhaite la réussite de son successeur pour le bien du pays. Sur un fauteuil à ses côtés, le président élu, Donald Trump, tout sourire et un peu intimidé. Cet homme qui a remis en doute pendant des années jusqu'à la nationalité américaine de Barack Obama et sa compétence joue la divine surprise.
Nous apprenons à nous connaître. Nous ne nous étions jamais rencontrés. J'ai beaucoup de respect, j'ai hâte de travailler avec le président dans le futur et de recevoir ses conseils.
Après la Maison Blanche, Donald Trump a enchaîné les rendez-vous au Congrès avec les responsables républicains. « Nous allons baisser les impôts comme promis », a-t-il déclaré aux journalistes. L'autre dossier qui sera traité en urgence, a-t-il ajouté, sera l'immigration. Donald Trump n'a pas précisé s'il s'agit de la construction du fameux mur, du retrait des décrets interdisant l'expulsion des jeunes nés à l'étranger ou de la situation des 11 millions de travailleurs sans papier. Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Et pendant que Donald Trump visitait la Maison Blanche, Hillary Clinton, elle, promenait son chien en forêt. Une jeune femme a fait sensation en postant une photo d'elle et de la démocrate rencontrée par hasard lors de cette balade au milieu d'un bois de Chappaqua dans l'État de New York, là où les Clinton ont leur résidence. Elle témoigne sur CNN.
Je lui ai dit la seule chose que je voulais faire après les résultats hier, c'était vous serrer dans mes bras et vous dire à quel point j'étais fière d'avoir emmené ma fille avec moi quand j'ai voté pour vous. Elle m'a remerciée, m'a pris dans ses bras, elle n'aurait pas pu être plus sympa.
Et c'est Bill Clinton qui a pris cette fameuse photo où Hillary Clinton apparaît, grand sourire aux lèvres. La journée d'hier a aussi été marquée par un entretien entre le vice-président Joe Biden et celui qui va lui succéder, Mike Pence, dans l'ombre souvent de Donald Trump. Et pourtant, son colistier est aussi connu pour des positions très tranchées, notamment contre l'avortement. Et Naomi Fenwick est avocate au barreau de Californie. Elle pense que le nouveau vice-président des États-Unis menace les droits des LGBT, les lesbiennes gays, bi et transsexuels.
Mike Pence, alors qu'il était gouverneur, a autorisé l'adoption d'une loi qui permet au commerce de ne pas servir les personnes LGBT en raison de leur orientation sexuelle. Au niveau des États, on pourrait aussi voir un renouveau, un regain d'efforts pour passer des textes de loi qui seraient discriminatoires contre les personnes LGBT.
Des propos recueillis par Laura Martel. Bonjour Stéphanie Schuller.
Bonjour Marie, bonjour à tous.
Alors que dit la presse aujourd'hui de cette rencontre Trump-Obama hier?
Eh bien le Boston Globe souligne l'élégance avec laquelle Barack Obama a reçu son successeur. La démocratie comporte des obligations civiques. Maintenant, il est temps pour Monsieur Trump de remplir les siennes, estime l'éditorialiste. Commencez par dénoncer la haine, Monsieur Trump, lance le New York Times. Vous dites vouloir rassembler le pays, alors rejetez immédiatement et explicitement l'ensemble des insultes, des menaces et des attaques à caractère raciste, sexiste, xénophobe et homophobe qui ont été associées à votre nom. De son côté, le Dallas Morning News appelle Donald Trump à être un homme d'État. Nous avons cessé de répéter que votre tempérament, votre expérience et vos valeurs vous rendent inapte pour le poste du président. Nous aimerions juste que vous nous prouviez que nous avons eu tort.
Et on note que les manifestations contre Donald Trump ont continué hier hier dans plusieurs villes des États-Unis. Elles étaient moins suivies que la veille. Le milliardaire a dénoncé ce mouvement sur Twitter. Ces manifestants sont des protestataires professionnels poussés à manifester par les médias, dit-il. Fin de citation. On part maintenant au Venezuela. Deuxième réunion de dialogue aujourd'hui entre le gouvernement et l'opposition. Les deux camps s'étaient déjà rencontrés fin octobre sous les auspices du Vatican pour tenter de résoudre la crise que traverse le pays. Nouvelle échéance donc aujourd'hui et l'opposition l'a d'ores et déjà promis, Julien Gonzalez, sans avancée concrète, elle relancera les mobilisations dans la rue.
La trêve que nous avions décidée s'achève ce vendredi. Ce rappel lancé il y a quelques heures est signé du secrétaire général de l'opposition. Depuis la première rencontre, la MOUD le répète chaque jour, la libération de ce qu'elle appelle les prisonniers politiques est une des conditions principales du dialogue. L'autre revendication non négociable pour l'opposition, c'est un scrutin pour sortir de la crise. Le processus du référendum révocatoire contre le président est à l'arrêt depuis 3 semaines. Aussi, la MOUD exige que les autorités électorales réenclenchent le processus ou que la date de la prochaine élection présidentielle soit avancée au premier trimestre 2017 au lieu de décembre 2018. De fausses attentes selon le camp présidentiel qui rejette tout ultimatum. Toute la semaine, l'homme fort du parti chaviste au pouvoir, Diosdado Cabello, l'a dit sur tous les tons, il n'y aura ni référendum révocatoire, ni élection générale anticipée. Conclusion, les deux partis campent sur leur position et tout compromis semble difficile. Reste la déclaration de l'envoyé spécial du Vatican sous forme de mise en garde. Si l'une des deux délégations se retirait du dialogue, ce ne serait pas le pape, mais le peuple vénézuélien qui y perdrait, car le chemin pourrait se terminer dans le sang. Fin de citation. Julien Gonzalez, Caracas RFI.
Il y a beaucoup de commentaires, Stéphanie Schuller, à quelques heures de l'ouverture de ce dialogue.
Ouais, pour le journal de l'opposition El Nacional, le processus qui s'ouvre aujourd'hui sous l'auspice du Vatican ne peut en aucun cas être appelé dialogue. Car comment dialoguer avec un camp qui prend un peuple entier en otage en lui refusant un référendum et la liberté de gens qui pensent différemment, s'interroge le quotidien. Certains membres de l'opposition voudrait quitter la table du dialogue avant même d'avoir commencé à parler, constate El Universal. Et en effet, et en toute évidence, le gouvernement n'a pas accepté ce processus pour trouver une issue à la crise, mais pour gagner du temps. Pourtant, poursuit l'éditorialiste, quitter le dialogue serait une grossière erreur, car ce processus offre enfin une opportunité pour l'opposition pour dénoncer les maux du pays devant une autorité telle que le Vatican. Enfin, ultima Noticia s'appelle l'opposition, au contraire, à ne pas jouer les troubles faits. Dans un processus de dialogue, le facteur temps est primordial. Aucune solution ne peut être trouvée en quelques heures ou jours seulement. Nous devons supprimer le tic-tac de la bombe à retardement pour que le dialogue puisse être fructueux.
Et direction Haïti pour finir, où doivent se tenir le 20 novembre les élections présidentielles et législatives partielles.
Oui, dans une lettre au Conseil électoral provisoire et publiée par Alter Press, la CRAN, la cellule de réflexion et d'action nationale s'inquiète de la lenteur des préparatifs pour l'organisation de ce scrutin. L'institution électorale haïtienne et le gouvernement sont sous pression, constate aussi le National. Plusieurs partis politiques insistent sur l'urgence à respecter cette fois-ci la date prévue pour les élections.
Merci Stéphanie Schuller. Cette revue de presse est à retrouver sur RFI.fr. On reste en Haïti où plus d'un mois après Matthew, selon l'ONU, près d'1,5 million d'Haïtiens ont toujours besoin d'une aide humanitaire d'urgence. Urgence, l'OCHA, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, a conscience des défis à relever. Un sujet signé Amélie Baron.
En visite en Haïti au début du mois, John Gigg, le directeur des opérations de l'OCHA, a voulu voir par lui-même comment l'aide humanitaire s'organise dans les zones ravagées par l'ouragan. Après avoir rencontré des sinistrés, il a tenu à souligner leur propre mobilisation.
People are making the most of...
Les gens tirent le meilleur parti de l'aide qu'ils reçoivent. Ils travaillent eux-mêmes pour améliorer cette aide. Donc ils ne restent pas assis à attendre la charité. Ils ont besoin de l'aide internationale. Nous devons nous mobiliser beaucoup plus rapidement et mobiliser davantage pour aider les gens à se remettre de l'ouragan. Les besoins sont énormes. Il faut distribuer l'aide, déterminer les besoins, les priorités. Cela nécessite un certain degré de planification. Bien sûr, nous devrions aller plus vite, mais nous devons aussi travailler avec le gouvernement et les structures en place de manière efficace.
Que l'aide soit plus efficace, c'est ce que réclament les milliers de sinistrés qui n'ont toujours pas reçu d'assistance. Et John Gigg comprend absolument leur frustration, mais appelle au calme.
Face aux circonstances actuelles, les gens pensent que ce n'est pas suffisant et ils ont raison. Nous n'atteignons pas tout le monde du jour au lendemain. Donc quelqu'un qui n'a rien reçu se plaint avec raison. Mais si nous prenons un peu de recul et nous voyons le nombre de personnes qui ont reçu de l'aide et la qualité de l'assistance, c'est une bonne opération. Il y a eu des problèmes de sécurité autour de la distribution de l'aide. Nous devons trouver des moyens pour surmonter ces problèmes de sécurité parce que l'effort d'aide doit continuer. Nous comprenons aussi la frustration de la population. Elle est légitime, mais bien sûr l'exprimer en pillant l'aide, en créant des problèmes de sécurité lors des distributions humanitaires, cela ne va aider personne à accélérer la remise d'aide, la rendre plus efficace et sauver plus de vies.
Mais si l'aide humanitaire est encore trop faible en Haïti, ça n'est pas dû uniquement aux quelques incidents causés par les habitants. L'argent manque cruellement et ce sont les pays riches qui sont directement responsables.
Si le G7 et le G20 respectaient seulement leur engagement de verser 0,7% de leur PIB pour l'aide au développement à l'étranger, nous aurions à l'échelle mondiale 158 milliards de dollars américains additionnels de disponibles pour l'aide humanitaire et le développement. C'est un engagement que les pays du monde ont pris en 2015 à Addis Abeba, lors d'une réunion des ministres des Finances sur le financement du développement. Ils savent ce qu'ils doivent faire, et pourtant, ils ne le font pas. Donc oui, nous devons continuer à demander pourquoi. Pourquoi formuler tous ces engagements et ne pas les respecter ?
Amélie Baron, L'Écaille, RFI.
Au Canada maintenant, depuis 10 ans, une ferme de la région de Québec, les Moissonneurs Solidaires, livre plus de 90% de sa production annuelle de légumes aux banques alimentaires. Carottes, choux, poireaux garnissent ainsi la table de dizaines de milliers de personnes. Et la ferme fonctionne en grande partie grâce à des dons, à l'aide des bénévoles et puis au travail d'hommes qui sont en réinsertion sociale, encadrés par un organisme chrétien évangélique. Reportage de Pascal Guéricola.
Il pleut cette journée de novembre sur la ferme des Moissonneurs Solidaires. Bravant le froid, une vingtaine d'employés des Caisses des Jardins, une coopérative bancaire, prêtent main forte à l'équipe de la ferme pour rentrer les récoltes de légumes. Ronald Blussier, le directeur du projet, salue leur implication.
Merci d'être là, d'être présent et d'être vraiment là, un facteur déterminant dans la réussite du projet là, de la distribution de 450 000 kilos de légumes de première qualité aux démunis de la société. Merci encore d'être là aujourd'hui. Merci.
L'an dernier, les Moissonneurs Solidaires ont récolté plus de 500 tonnes de carottes, de choux, de maïs, de poireaux. Les banques alimentaires du Québec ont distribué 450 tonnes de ces légumes aux gens dans le besoin. Dans les champs, les employés de banque ramassent les choux à la chaîne.
Il y en a là, on va faire une chaîne.
C'est un autre comme qu'on est plus habitué, on pense.
Mais là, ça marche pas, ça. On peut pas les tirer, là, Kevin. C'est pas la bonne technique, là.
On se connecte à la réalité des cultivateurs puis des gens qui travaillent dans les champs. C'est vraiment, vraiment différent de notre réalité à nous qui est dans des bureaux. Vraiment, totalement pas la même histoire. Ça fait travailler les bras assez fort, merci. Vraiment un travail d'équipe. Faut qu'on se parle, qu'on se regarde. On voit les plus perfectionnistes, minutieux, les moins patients, ceux qui font la discipline, qui prennent le lead. Très intéressante comme expérience.
Aux côtés des bénévoles d'un jour, on retrouve ceux de Défi Jeunesse. Ces hommes, malmenés par la vie, habitent sur la ferme pendant un an pour se reprendre en main.
Pour me motiver au début, avant de commencer à travailler, ben je pense. Puis c'est pour les démunis, c'est pour une bonne cause. Ben moi, j'ai déjà été dans cette situation-là, d'aller demander de la nourriture. Ça.
Le directeur du projet, Ronald Blussier, le reconnaît volontiers. Les Moissonneurs Solidaires ne pourraient jamais réussir à donner autant de légumes sans l'apport quotidien des hommes impliqués dans le centre de thérapie sur la ferme. Un centre religieux, comme l'explique Ronald Blussier.
Dans la parole de Dieu, c'est dans Jacques 1:23, c'est dit la religion pure et sans tâche aux yeux de Dieu le Père, c'est de s'occuper de la veuve et de l'orphelin dans leurs afflictions. Tu prends juste ça, tu n'as assez d'un verset pour faire ta vie, là. C'est que tu t'occupes de la veuve et de l'orphelin. Puis ici au Québec, les banques, le réseau, les 19 banques approvisionnent 400 000 personnes par mois, dont 35% sont des enfants en bas de 12 ans.
En novembre, la pluie et la boue compliquent la tâche, comme l'explique Jim Young, le coordonnateur des travaux.
Le bénévole qui est sur le chariot élévateur, il s'est pris dans la boue, là. Il faut aller le sortir. Puis c'est des défis, hein, ce temps-ci de l'année, là, avec la météo, on contrôle pas grand-chose. Je vais lâcher un cri. Wow!
Avec ce qui reste au champ, on peut pas se permettre de pas saisir ces journées-là. Là. 15 personnes qui voulaient vraiment s'activer aujourd'hui sont en train de faire toute la différence dans nos vies à nous aujourd'hui, là, nous qui gérons le projet. Là.
Ronald Ducier et son équipe rêvent d'exporter ce modèle unique de ferme dans d'autres pays. Déjà, des Burkinabés, des Sénégalais, des Ivoiriens ont visité les installations québécoises. Moissonneurs sans frontières pourrait prendre bientôt son envol. Pascal Guéricola, Québec, RFI.
Il est 8h25 à Montréal. Un mot du Canada encore qui perd l'une de ses icônes, Leonard Cohen, on l'apprend aujourd'hui, s'est éteint à 82 ans. L'artiste est donc parti rejoindre sa muse, écrit le journal Le Devoir. Sa muse au prénom bien connu des fans de Cohen, Marianne, qu'on retrouve par exemple dans cette chanson de 1968.
Oh, you are really such a pretty one. I see you've gone and changed your name again.
Le journal de l'Outre-mer.
Et on retrouve tout de suite Benoît Ferrand. Bonjour Benoît.
Bonjour Marie.
Et c'est officiel, l'épidémie de Zika est terminée en Guadeloupe.
Oui, c'est la fin d'une période pénible qui avait débuté le 30 avril dernier. Pas tout à fait la fin d'ailleurs, car le virus est toujours bel et bien présent en Guadeloupe, mais il ne circule plus que de manière sporadique et non plus épidémique. Et c'est là évidemment toute la différence. Steve Prudent.
Avec au mois d'octobre moins de 100 cas enregistrés par semaine contre quelques 2700 au plus fort de la circulation du virus, l'épidémie de Zika est officiellement terminée chez nous. Cela ne signifie pas pour autant que la lutte contre le moustique Aedes aegypti est terminée. Tout au contraire, on a toutes les raisons de craindre l'émergence d'autres maladies qui peuvent être transmises par ce même vecteur. Le directeur de l'Agence régionale de santé, Patrice Richard.
On a 4 sérotypes de dengue qui circulent dans toute la zone anti-Guyane. Si on prend l'expérience de la Réunion, qui a eu une épidémie de chikungunya en 2006, ils n'ont pas eu 10 ans plus tard encore d'épidémie. Donc, par contre, de nouveaux virus circulent. On a entendu parler d'un virus appelé Mayaro qui circule en Haïti, dont les experts nous disent que pour l'instant, il ne représente pas une menace. Mais tout ça pour dire que, de toute façon, les épidémies portées par le moustique Aedes aegypti, c'est quelque chose. Maintenant, on sait que ça se renouvelle à période régulière. Donc, ce qui veut dire que tous les bons gestes qu'on conseille à la population, en fait, il faut que ça devienne des automatismes.
Précision importante, les femmes enceintes touchées qui n'ont pas encore accouché vont pouvoir continuer à bénéficier des mesures exceptionnelles mises en place durant l'épidémie, comme par exemple les échographies supplémentaires.
Un véhicule rechargé à 100% par le soleil, c'est une première et ce sont deux jeunes Martiniquais qui en sont à l'origine. La Green Technology permettrait de recharger des véhicules électriques grâce au soleil, un concept novateur soutenu par EDF. Michel Juston est chargé de développement à Green Technology. Il est au micro d'Alain Livory.
2017 va voir le déploiement d'une dizaine de bornes en Martinique et en Guadeloupe. On espère en 2018 pouvoir déployer une vingtaine de bornes sur les deux territoires. La distance moyenne parcourue par un automobiliste en Martinique est de 34 km. Donc 34 km pour un véhicule qui aujourd'hui fait 150 km d'autonomie, demain va faire 400 km d'autonomie, ça veut dire qu'on a 11 jours d'autonomie avec notre véhicule. Le modèle proposé par Green Technology est de permettre à tous les employés d'entreprise de recharger leur véhicule à leur travail. Le but, justement, c'est que les entreprises qui vont adhérer au projet Made in Drive vont ouvrir la recharge au grand public. Le temps de charge a nettement diminué. Pour une charge complète, le temps de charge aussi de 45 minutes pour une charge rapide à 4 heures.
Et en principe, l'énergie, autrement dit le soleil, ne manquera pas aux Antilles. On l'espère en tout cas. Bon après-midi Marie, bon week-end.
On espère aussi. Merci Benoît Ferrand et merci à toute l'équipe d'Outre-mer Première à la réalisation aujourd'hui. C'était Jonathan Brady. Rendez-vous lundi pour une nouvelle édition du journal d'Haïti et des Amériques. Je vous souhaite un très bon week-end à l'écoute de la Radio Mondiale.
«
Édition spéciale sur RFI.
Le 13 novembre 2015, une série d'attentats sanglants frappaient Paris et Saint-Denis, faisant 130 morts et des centaines de blessés. Où en est l'enquête aujourd'hui? Comment les victimes font-elles face? Qu'est-ce qui a changé dans notre législation pour faire face au terrorisme? Un an plus tard, Juliette Rangeval revient avec ses invités sur ces événements qui ont profondément bouleversé la France et nous propose une édition spéciale ce dimanche de 6h à 8h temps universel.
RFI.